la lutte contre la désertification est l'une des priorités des Nations Unies, au même titre que celle contre le changement climatique. La 13e conférence des parties sur le sujet, la COP13, s'est achevée à la mi-septembre en Chine. Dégradation de terres, perte de biodiversité, disparition de la végétation, sol surexploité, les causes du phénomène sont multiples. Près de 2 milliards de personnes subissent la désertification qui touche près de la moitié de la superficie de la planète. Bonjour Justine Richer.
Bonjour Philippe.
Chargée du programme Au bien commun à la Fondation France Liberté. Alors nous avons vu la semaine dernière avec vous ce qui caractérisait cette désertification. Le phénomène est-il irréversible? Quelles sont les actions possibles à mener ou qui sont déjà en œuvre?
C'est l'avantage, entre guillemets, de cet enjeu, c'est qu'il existe des solutions et c'est réversible jusqu'à un certain point parce que c'est quand même le temps de constitution d'un sol est beaucoup plus élevé que son temps de dégradation malheureusement. Mais les Nations Unies se sont emparées de la désertification et parmi les objectifs de développement durable, l'objectif 15 vise vraiment à préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. Et donc plus explicitement à lutter contre la désertification, restaurer les terres, les sols dégradés et lutter contre la sécheresse, les inondations, etc. Ils sont dans une perspective de changement de paradigme dans la gestion des terres, c'est-à-dire passer d'un triptyque qui actuellement est plutôt dégradation des terres, abandon et migration, sur quelque chose de qui va plus vers la protection des sols, les maintenir et restaurer le sol, le cycle de l'eau qui est intimement lié également.
Concrètement, il s'agit donc de changer les modes de culture, revenir à des pratiques plus respectueuses du cycle de la biodiversité?
Voilà, exactement, puisque en fait la lutte contre la désertification, donc il y a effectivement cette échelle onusienne, mais il y aura énormément de travail sur l'échelle locale en fait. En termes de territoire, on va de la région agricole à la parcelle, au niveau décisionnel également. Il y a l'État, il y a l'échelle internationale, mais il y a aussi l'échelle de la famille, d'agriculteurs, et notamment en Afrique, en Asie, les continents les plus touchés. Donc c'est des solutions qui sont transversales, qui vont intégrer plusieurs disciplines, du social à l'agricole, et effectivement faire appel bien souvent à des techniques soit qui existent déjà, soit qui évoluent au fil de leur enrichissement justement par d'autres disciplines.
Alors comment les résolutions prises lors de cette COP13 à Ordos en Chine sont-elles intégrées aux réflexions de la COP23 sur le changement climatique qui elle aura lieu en novembre à Bonn en Allemagne?
Alors normalement, évidemment, il y a des liens qui sont faits entre les conventions, entre les prises de décision. Pour autant, pour France Liberté, l'important est principalement d'être dans de l'initiative locale, de soutenir les alternatives locales et d'essayer de les dupliquer. Et notamment, on a créé un web documentaire issu du plaidoyer Eau et Climat qui vise à rendre compte de toutes ces alternatives existantes et qui pourraient être valorisées. Par exemple, on présente le mouvement de la ceinture verte, qui est un projet majeur de lutte contre la désertification. En fait, c'est vraiment une bande de végétation qui traverse l'Afrique, qu'on essaie de mettre en place, et qui est issue de la biologiste Wangari Maathai, qui est prix Nobel de la paix en 2004. Donc en fait, ce mouvement vise à encourager les gens, et notamment les femmes, à planter des arbres, pour créer une barrière contre l'érosion, et puis également ça permet d'améliorer le niveau de vie. Et ces solutions contre la désertification passent bien souvent par l'amélioration de la gestion de l'eau de pluie, c'est-à-dire concrètement rendre l'eau à la terre, par exemple en adoptant des techniques culturales qui limitent les besoins en eau des plantes, en choisissant des plantes plus adaptées au climat, en conservant l'eau au niveau de la parcelle pour limiter le ruissellement, par exemple avec l'application de paillis végétaux. Ça va être encore l'application de l'agroécologie dont on entend de plus en plus parler, dont un des grands principes est d'associer les plantes de façon à avoir des cultures vertueuses, par exemple par l'apport d'ombre par une plante qui aurait de l'archefeuille, etc., et qui permettrait d'éviter l'eau de s'évaporer trop vite. Donc c'est vraiment, la désertification est un enjeu qui nécessite un apport de toutes les solutions à toutes les échelles et de toutes les disciplines. Mais ça doit être encadré effectivement par des échelles plus grandes, territoriales plus grandes, pour prendre en compte les contraintes qui peuvent endiguer la lutte contre la désertification, qui sont parfois le non-respect du droit d'accès à la terre et à l'eau. Or, c'est ce droit d'accès qui permet de garantir aux populations un accès à long terme à leurs parcelles notamment, et donc d'y investir. Et évidemment, la paix et la sécurité civile sont essentielles au bon fonctionnement des sociétés dans la diffusion de ces pratiques-là aussi.
Et pour aller plus loin sur les liens entre eau et climat, ce webdoc interactif est donc à découvrir sur le site de France Liberté, tout comme le plaidoyer eau et climat, france-liberté.com. Merci Justine Richer.
Merci à vous.
Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.